Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et puis, nous avons pris l'habitude de présenter sur nos ondes les nouvelles éditions du bimestriel Moins, le journal roman d'économie politique. On parle aujourd'hui du numéro 26, comme tu l'as dit, Émilie, au sommaire. Un numéro 26 qui couvre les mois de décembre. Et c'est toi, justement, Émilie, qui l'a lu cette fois pour nous. Et tu as invité deux des nombreux rédacteurs pour nous guider à travers les articles et les dossiers qui caractérisent ce magazine.
Oui, bonsoir Fabien. Bonsoir donc Laurent Desmarta et Mathieu Glaire. Donc vous êtes deux des rédacteurs et parmi les rédacteurs de Moins. C'est avec vous qu'on va feuilleter ce numéro 26 dont le dossier, donc très dense et fouillé pour les novices, hein, disons-le d'emblée, aborde le thème des vrais et des faux amis de la décroissance. En effet, nous allons découvrir, grâce à vos articles qui sont très bien rédigés, je dois dire, que de nombreux mouvements, donc les anarchistes, les féministes, les écosocialistes et j'en passe, s'acoquinent avec la thématique de la décroissance pour le meilleur mais aussi pour le pire, comme on le découvre sous votre plume parfois acérée. Vous faites cela néanmoins joliment et au néocolore, si vous me permettez, en déclinant les couleurs de l'arc-en-ciel en fonction du lien que ces dernières ont avec les mouvements associatifs et syndicalistes que j'ai évoqués. J'ai par exemple appris que le violet était associé aux luttes féministes radicales. Voilà.
Alors ça a été créé pour la circonstance, dans la mesure où on n'a pas connu de couleur associée au féminisme. Donc on a mélangé le rouge marxiste et le bleu des schtroumpfs qui font l'objet d'une page littéraire sur le thème.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il retourne dans ce dossier qui est donc quand même assez peu facile d'accès, on peut dire ça quand même, pour des gens qui ne s'y connaissent pas tellement ?
On peut peut-être, enfin, c'est à chacun de décider, d'essayer. Disons que les thématiques auxquelles on essaye de traiter quand on parle en général d'écologie politique peuvent sembler compliquées, néanmoins elles touchent chacun d'entre nous quotidiennement, et puis peut-être que si on trouve que ces sujets sont compliqués, c'est peut-être qu'il faut s'interroger sur notre façon de réfléchir, sur notre éducation, parce que si on trouve compliqués des sujets qui nous touchent tous les jours, qui nous concernent en termes du vivre ensemble, ça peut faire un petit peu souci. Néanmoins, c'est vrai que ce dossier-là est peut-être particulièrement, je dirais pas complexe, mais c'est vrai qu'il s'adresse peut-être particulièrement à des militants, parce que l'on a un lectorat qui est assez large. Il y a des gens qui s'intéressent simplement à l'écologie ou à la décroissance d'assez loin, pour lesquels il faut peut-être des articles plutôt généraux, introductifs. On a aussi des gens qui s'y connaissent beaucoup, donc on doit faire un peu le grand écart entre essayer d'être des fois assez technique, d'aller assez loin pour que les gens qui s'y connaissent et continuent d'avoir envie de nous lire. Et puis aussi, évidemment, de ne pas dégoûter tout le monde et puis d'avoir des articles qui intéressent tout le monde. Donc voilà, on a un peu ce grand écart. C'est vrai que peut-être ce dossier s'adresse plus particulièrement aux militants qu'au grand public, on dirait en général. Voilà, néanmoins, c'est vrai que la question de la croissance, voilà, tous les mouvements politiques doivent quand même s'y confronter. Faut-il toujours plus ? Faut-il que l'économie croisse toujours ? On voit les effets écologiques, donc plein de mouvements s'y attachent. Et puis là, c'était un petit peu le but de voir que disent d'autres mouvements politiques de cette fameuse croissance.
Ben, alors je fais partie du lectorat qui a peut-être pas assez de culture pour vous suivre encore et que je suis novice dans la présentation de votre journal. Donc j'ai lu en détail vos nombreux articles et vos chroniques pour tenter un petit peu de m'imprégner de votre manière d'appréhender le monde. Je m'y suis d'ailleurs des fois un peu perdue, je dois l'avouer. Tant la verve en fait avec laquelle vous ou certains d'entre vous écrivez peut être virulente ou alors destinée à un public, ben, comme vous le disiez justement, très averti. Mais je relève dans votre éditorial la phrase suivante. Internet sert d'exutoire à un monde pétri de frustrés hyper-connectés, gavés au militantisme 2.0 et nourrissant l'illusion que la révolution est à portée de clic. Alors, on peut dire que vous n'y allez pas par quatre chemins. Pour contextualiser vos propos, cela sert de justification à votre frilosité, si j'ose dire, à rendre l'intégralité de votre journal sur le web. Donc, difficile de cibler un large public quand on souhaite faire l'impasse sur la technologie moderne. Je me trompe ?
Non, effectivement, c'est un choix qu'on assume et qui nous coûte beaucoup de n'être que en papier. Et en même temps, c'est un choix qu'on revendique et c'est parfois trop facile de vouloir être sur Internet, que chacun clique dessus en ne sachant pas trop qui va aller chercher tout ça. On préfère être lu dans le bus, dans le métro, avec du vrai papier et puis que ça serve à emballer le poisson après.
Vous avez peut-être, je ne sais pas si j'ose demander ça, mais vous avez des chiffres du nombre de personnes qui vous lisent ? Comment ça se...
Oui, on a une idée. On vend à peu près 600 à 700 numéros en kiosque, à peu près le même nombre d'abonnés. Et puis, on a 200 ou 300 exemplaires qui sont écoulés par des réseaux militants, donc dans des lieux, des bibliothèques, des centres culturels, etc. Donc, on vend 1500 et 2000 exemplaires de chacun. C'est assez stable depuis à peu près 2 ans. Au début, le nombre d'abonnés a augmenté, et puis maintenant, c'est assez stable depuis à peu près 2 ans.
Donc, justement, en lisant votre journal, certains articles ont accroché davantage mon attention, donc, notamment ceux qui sont en lien avec des thématiques d'actualité. Vous avez ainsi éclairé ma lanterne, notamment au sujet des accords dits TTIP, qui sont des accords transatlantiques qui prévoient la mise en place de tribunaux privés, dites-vous, pour que les entreprises multinationales puissent avoir la possibilité de poursuivre les États qui seraient non coopérants aux politiques néolibérales. C'est plutôt effrayant, tout ça.
Oui, effectivement, c'est effrayant et c'est longtemps resté très secret, très, très confiné à des cercles de militants. Il revient à Greenpeace d'avoir lancé un petit peu, de lever le lièvre et permis au grand public de s'informer de ces choses-là. Ça commence à être connu, on peut commencer à faire une opposition, je dirais, documentée et politique, dans le sens noble du terme, à ces choses-là qui, tant qu'elles étaient dans le secret, ne permettaient pas une opposition frontale.
Mon œil a aussi été accroché par une brève, parce que vous avez un journal où il y a des articles qui sont assez longs et puis d'autres petites chroniques. Donc par une brève au sujet de la mise au ban des accusés de l'entreprise Monsanto, donc ça c'est assez connu du grand public, qui est donc l'un des acteurs majeurs de l'agrochimie et qui a littéralement défrayé la chronique ces derniers mois avec la commercialisation d'un herbicide mortifère. Et donc avant de vous laisser la parole, il y a une autre de vos chroniques qui m'a aussi interpellée, c'est celle au sujet d'Amazon. Parce qu'en effet, à l'heure où le Père Noël carbure, ce petit encart pourrait en intéresser, voire en culpabiliser plus d'un, si on vous suit à la ligne. En fait, en commandant un bouquin ou autre sur ce site, on participe à l'exploitation, dites-vous, de travailleurs pauvres, dont les droits sociaux minimaux ne semblent pas être respectés, et qui vont même jusqu'à être maltraités en étant chronométrés dans l'exécution de leurs tâches. Vous faites de la psychodynamique moderne.
Je ne sais pas ce que c'est que la psychodynamique. De quoi s'agit-il ?
La psychodynamique, c'est la psychologie du travail.
Ok. Alors, le but n'est pas de culpabiliser les gens, d'abord. Le but, c'est simplement, enfin, voilà, on essaie d'être un journal un peu d'information et puis de réflexion. Donc, simplement pour prendre des bonnes décisions, pour être un citoyen, un citoyen qui, dans la vie, ait un certain sens. Il faut être informé, il faut comprendre les enjeux qui sont autour de nous. Donc, c'est simplement ce qu'on essaye de faire dans le journal, en essayant de provoquer un peu, de signaler des effets dont on parle très peu. C'est vrai que, voilà, on a parlé d'Internet et de nouvelles technologies au début de ce journal. On est très, très peu critique dans la société moderne sur les nouvelles technologies. On voit très bien ce qu'elles apportent, en tout cas ce qu'on a l'impression qu'elles apportent. On est souvent peu conscient de tous les problèmes qu'elles créent, des fois ailleurs. Et puis voilà, simplement pour les utiliser, c'est bien d'être conscient de quelles sont leurs conséquences et puis de pouvoir décider si oui ou non on va les utiliser en toute bonne conscience. Enfin, pas en toute bonne conscience, mais en conscience, simplement.
Émilie disait à l'instant, elle vous citait un de vos articles qui parle de Monsanto, c'est quand même un de vos principaux chevals de bataille. Encore quelque chose à dire de nouveau les concernant dans ce numéro ?
Alors là, l'article, la brève, portait sur un tribunal qui a été monté autour de Monsanto. On a essayé, donc c'est un tribunal qui n'a pas de force véritable, pénale, mais qui essaye d'être aussi sérieux que possible avec des juges professionnels et puis qui essaye de faire un travail de dénoncer, de faire débattre dans l'espace public des conséquences du travail d'une multinationale comme Monsanto et puis des implications en Suisse, vu qu'il y a un siège en Suisse, etc., enfin, comme d'autres multinationales, et puis c'est d'essayer d'avoir un travail citoyen sur ce genre d'entité.
Une autre thématique actuelle, et donc qui dure depuis quelques années d'ailleurs, que vous traitez dans ce numéro sous l'angle d'une interview, que j'ai bien aimée d'ailleurs, c'est cette histoire de projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. En effet, c'est un des hauts lieux du militantisme depuis le début des années 2000, et l'État, donc je l'ai appris en lisant cet article, n'arrive pas à faire évacuer la zone. Donc ça, c'est la force du collectif, et c'est rare à notre époque, et on découvre sous votre plume la vie dans cette zone, vie qui promet, selon vos termes, de sortir du militantisme des heures de bureau, je cite, certains apprécieront, n'en doutons pas, pour ces essayez à vivre, expérimenter, échouer et retenter autrement les principes et valeurs en vigueur. Donc c'est un sacré programme. Mais c'est pas un peu utopiste et radical quand même, vous trouvez pas ?
Alors, ça dépend toujours des définitions qu'on a de l'utopie et du radicalisme. Je pense que l'utopie est quelque chose qu'on peut revendiquer, qu'on a plusieurs fois revendiqué dans nos colonnes en tant qu'orientation et en tant que but lointain ou direction à viser par la lutte au quotidien. L'utopie nous permet de nous orienter dans ce qu'on cherche à faire. Quant au radicalisme, c'est important aussi de ne pas rester, comme on l'avait dit dans nos colonnes, le militantisme de bureau. Je pense qu'il faut que ce militantisme-là, finalement, le système contre lequel on s'oppose s'en accommode très très bien. Et qu'on est obligé, il y a un peu plus loin, on y reviendra probablement après, un débat sur la violence et la limite de la violence qu'on peut utiliser ou pas, une nécessité d'aller plus loin que le consensus un peu mou de cliquer sur une pétition en ligne ou se contenter d'écouter certaines informations sur Arte ou comme ça qui sont justes mais qui finalement nous rendent passifs et non actifs.
Mais c'est déjà un premier pas de cliquer sur une page internet ou bien de regarder Arte.
Alors c'est un premier pas qui est utile et qui n'est pas suffisant. C'est dans ce sens-là qu'il est dangereux, c'est que si on s'en contente, il est contre-productif.
Voilà, voire même on peut dire parfois que non, dans certains cas il peut même être contre-productif directement, parce qu'en faisant ça, en faisant un clic, on va s'acheter peut-être une bonne conscience, on va participer à tout le fonctionnement d'Internet, donc consommation d'énergie, consommation de métaux rares, etc. On s'est acheté une bonne conscience parce qu'on a cliqué, et puis ensuite on va continuer à faire la même chose ou faire pire. Donc non, c'est pas forcément du tout une bonne chose, ça dépend de ce qui se passe dans la vie réelle, quel est l'activisme réel, quel est le changement de vie qu'on va mettre en pratique, mais non, de cliquer, c'est pas forcément quelque chose de positif en soi.
Oui, Laurent de Marta.
Oui, pour rester sur cette thématique qui est assez centrale dans notre fonctionnement, c'est un petit peu la mode aujourd'hui de beaucoup de mouvements écolos, de culpabiliser l'individu, de tout mettre sur l'individu, sur les réactions individuelles, sur chacun peut faire sa petite action, son petit truc dans son coin. Et finalement, c'est une façon assez insidieuse de désamorcer tout mouvement contestataire de fond et tout mouvement contestataire un petit peu important. Donc c'est vrai qu'on a tendance à essayer de prendre la distance par rapport à ces petites critiques de fond sympathiques finalement, où on essaye chacun de faire notre petit geste écolo, etc. C'est pas inintéressant, c'est rarement vraiment contre-productif, mais c'est extrêmement insidieux dans l'implication à long terme. Mmh. On peut très vite s'en contenter et ça c'est dangereux.
Ensuite, il y a une rubrique que vous intitulez « Le coin des paresseux » qui m'a fait sourire. Je dois dire que je suis assez piquante ce soir, mais vous épinglez en mentionnant la poudre dite « Oli » qui est ou serait toxique pour l'humain quand cela est inhalé, la célèbre et festive « Color Run » qui a cours depuis quelques années en Suisse romande. Et je me disais, mais finalement, rien n'a grâce à vos yeux.
Alors, je pense qu'il y a peut-être un journal comme le nôtre, justement, dans notre société, parce que on trouve tout joli, on trouve tout super, on fait plein de choses, on va courir, on va se balancer des couleurs dessus, tout le monde trouve ça génial. Et puis, heureusement qu'il faut avoir quelques personnes qui mettent un peu de poil à gratter et puis qui disent, mais peut-être que c'est pas si génial que ça, qui mettent plein d'autres choses. Donc, on a des rubriques où on présente tout plein de projets également positif, où on essaye de montrer qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, à notre avis, qui a vraiment de l'importance. Par contre, c'est vrai qu'on aime bien montrer que certaines choses que tout le monde considère comme positives, comme ne l'étant pas tout à fait, on aime bien signaler que Bertrand Piccard et son avion solaire qui ont besoin de 3 Boeing 747 pour faire le tour du monde, etc., c'est peut-être pas aussi génial que tout le monde le dit. Donc on a un peu ce rôle de poil à gratter aussi parce que finalement, plus personne le fait. On a des critiques à gauche et à droite qui sont passablement de surface, mais des gens qui essayent d'aller gratter un petit peu en dessous, d'être radical dans le bon sens du terme, d'aller chercher les racines. Il n'y en a pas beaucoup. Alors peut-être que si on les défend un petit peu trop, peut-être que c'est pas si mal que ça.
Et donc, en fin de journal, moi je suis entrée dans votre article dénommé « La violence dans les luttes écologiques », d'un abord plus accessible, je dois dire, pour le commun des mortels dont je fais partie. C'est un article qui parle d'une thématique qui se fait plutôt rare dans les médias, et c'est bien dommage, parce que le débat que vous montez me paraît très pertinent et ouvre à penser sur des perspectives plus globales au sujet de l'utilisation de la force et de la violence en général, ainsi que de la légitimité de cette dernière quand on veut défendre une cause qui nous tient à cœur.
Alors effectivement, c'est aussi une thématique qui nous touche beaucoup. Et personnellement, grand lecteur de Camus, je pense que mes premières vraies lectures politiques, c'est les textes de Camus sur les limites qu'on doit s'imposer par rapport aux moyens qu'on utilise, en particulier Les Justes, une pièce de théâtre absolument formidable, dans laquelle il essaye de circonscrire les moyens qu'on peut se permettre d'utiliser pour une cause qui de fait est bonne, mais on ne peut pas se permettre de dire tous les moyens sont bons lorsque le but est noble. Il faut effectivement réfléchir aux moyens qu'on utilise. Et c'est un débat qui est peut-être aussi vieux que l'humanité, qui a eu plusieurs fois, qui est passé sur le devant de la scène plusieurs fois et qui convient de maintenir sur le devant de la scène régulièrement pour ne pas se tromper entre les moyens qu'on utilise et les buts qu'on poursuit.
Mathieu Clair et Laurent Desmartel, deux rédacteurs de ce magazine Moins, pour ce numéro 26, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un article à ne pas manquer ? Qu'est-ce que vous nous recommandez ce soir de lire dans cette édition ?
Mathieu Clair. Excellente question, moi je ne l'ai plus complètement en tête, je dois dire. C'est vrai que le dossier, je le conseille plutôt aux personnes qui sont ce dossier-là. D'autres dossiers sont beaucoup plus généraux, j'ai l'impression. Ce dossier-là, ça intéressera, j'ai l'impression, surtout les personnes qui militent déjà dans des mouvements, on dira quand même bien engagés, peut-être pas des mouvements très centristes, donc que ce soit le féminisme, l'anarchisme ou d'autres mouvements à ce niveau-là. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ce numéro. Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé peut-être l'article du début, des pages 4-5, sur la manière dont la technologie s'est emparée du vivant. C'est vrai que c'est un des chevaux de bataille de notre mouvement, que ce soit à gauche comme à droite. La technologie est très peu remise en question aujourd'hui. On a l'impression que la technologie est forcément bonne et puis que plus de technologie est mieux, y compris chez les écologistes, y compris à gauche. Et le mouvement pour la décroissance est un des rares qui essaye de faire une critique radicale et constructive de la technologie. Donc ça me semble être une approche intéressante.
Voilà, et puis Laurent Desmartin, vous me faites des grands signes que vous êtes tout à fait d'accord avec votre co-éditeur.
Oui, je me permets peut-être d'en ajouter un autre.
Oui, allez-y. Pour votre coup de cœur à vous.
Promouvoir l'histoire. Donc
c'est vous qui l'avez écrit, le prochain ?
Je l'ai mentionné. Non, celui-là, non, j'ai quand même fait attention. J'en ai parlé, en fait, en tout début d'émission. Il y a une page sur les schtroumpfs sont-ils décroissants, écrit avec beaucoup d'humour, mais aussi énormément de documentation. Et c'est une rubrique relativement nouvelle qu'on a acceptée dans le journal sur la relation entre la littérature et la décroissance en général.
Et cette rubrique va se pérenniser, hein.
Cette rubrique est destinée à se pérenniser et on insiste vraiment sur la nécessité de lire, de lire si possible des livres, du papier et de rester sur ces choses-là et pas seulement de regarder des choses sur YouTube.
Bon, ben voilà, on a fait le tour de ce 26e numéro. On a fait un tour bref, hein, comme on peut le faire en une quinzaine de minutes. On rappelle que la prochaine mise sous pli, parce que ce journal, comme on l'a rappelé, se lit essentiellement sur papier, aura lieu au mois de janvier. Est-ce que vous avez déjà les dates du mois de janvier 2017 ?
Elles sont fixées, mais moi je les ai pas avec moi.
Très bien, et ben on les mettra alors sur internet, tout comme le lien pour acheter votre journal et vous inscrire, vous abonner bien sûr. Vous pouvez joindre la rédaction à l'adresse email suivante info@htmoins.ch. On vous met le lien sur notre site et il me reste à vous remercier beaucoup Laurent Desmartin et Mathieu Glaire d'être venu nous présenter votre numéro 26 du magazine Moins, le journal roman d'écologie politique qu'on peut trouver dès à présent en kiosque au modique prix de 5 francs. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Un sujet à retrouver sur Django.fm et merci Émilie.